Nous atteignons à présent la période où les aliénistes les plus académiques situent les premiers signes de démence de Charles Ward. À peine avait-il découvert le carnet qu'il commença à en feuilleter quelques pages qui visiblement l'impressionnèrent fortement, car lorsqu'il montra les titres des pages aux deux ouvriers, il prit grand soin de ne pas leur laisser entrevoir le texte, bien qu'il se trouvât dans un état d'excitation que même une découverte archéologique majeure ne saurait expliquer. De retour chez lui, il parla à ses parents de cette nouvelle trouvaille, mais d'un air embarrassé, souhaitant confusément leur en faire connaître l'importance tout en dissimulant la teneur. Il ne leur montra même pas les titres, se bornant finalement à leur annoncer qu'il avait trouvé des documents de la main de Kerven, pour la plupart cryptés, et qu'il allait devoir les étudier soigneusement pour en révéler le sens caché. Probablement d'ailleurs n'aurait-il rien montré aux ouvriers, n'eût-ce été leur envahissante curiosité. À l'évidence, ils ne voulaient pas non plus afficher une réticence particulière qui n'aurait fait que provoquer questions et discussions. Cette nuit-là, Charles Ward veilla dans sa chambre et lut le carnet et les papiers jusqu'au petit jour. À sa mère, inquiète de le voir manquer le déjeuner, il demanda qu'on lui serve les repas dans sa chambre. Et l'après-midi, il ne fit qu'une brève apparition lorsque l'on vint installer la cheminée et le portrait de Kerven dans son bureau. La nuit suivante, il dormit par intermittence, sans même prendre le temps de se déshabiller, luttant fiévreusement contre ce chiffre qui lui résistait. Le matin, sa mère constata qu'il travaillait encore sur le photostat du manuscrit codé qu'il lui avait montré l'avant-veille. À ses questions insistantes, il répondit vaguement que le code de Kerven ne s'y appliquait pas. L'après-midi, il délaissa son travail pour superviser les ouvriers qui achevaient l'installation du tableau au-dessus de la nouvelle cheminée, dans laquelle on avait placé une bûche électrique finalement très convaincante. Le tout avait été astucieusement installé, un peu à l'écart du mur, comme s'il y avait vraiment un conduit à l'arrière. Le tableau était monté sur un panneau pivotant de manière à ménager un petit espace derrière. Lorsque les ouvriers s'en allèrent, il déménagea tous ses papiers dans le bureau et se remit au travail, un œil sur le manuscrit d'Hutchinson et l'autre sur le portrait, miroir vieillissant et séculaire. Ses parents, se remémorant plus tard sa conduite, donnèrent quelques détails significatifs sur ce qu'on pourrait appeler sa politique de dissimulation. En présence des domestiques, il cachait rarement ses papiers, supposant que la calligraphie complexe et archaïque de Kerven les dépassait. Il était beaucoup plus circonspect avec ses parents, et à moins que les manuscrits visibles ne fussent scriptés ou composés de symboles ou d'idéogrammes abscons, comme par exemple « à celui qui viendra après », il les couvrait rapidement avec un papier jusqu'à ce que le visiteur importun fût parti. La nuit, il enfermait ses documents sous clé dans un vieux secrétaire, et de même quand il quittait la pièce. Bientôt, il revint à ses anciens horaires et habitudes, sauf pour ses longues promenades qui ne semblaient plus l'intéresser. À l'école où il était à présent en terminale, la rentrée scolaire sembla le déranger, l'ennuyer. Il déclara à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas poursuivre ses études. Il avait, disait-il, des recherches essentielles en cours qui le mèneraient à un savoir bien plus important que n'importe quelle université au monde. Naturellement, seul un élève studieux, solitaire et quelque peu excentrique pouvait poursuivre dans cette voie sans attirer tout de suite l'attention, et Ward étant par nature un travailleur ermite, ses parents furent davantage attristés que surpris par cette attitude de claustration et de secret. En même temps, son père et sa mère trouvaient bizarre qu'il ne leur montre aucune de ses découvertes ni ne leur parle jamais de l'avancement de ses travaux. Pour seule explication de cette réticence, il leur dit qu'il préférait attendre d'avoir des résultats complets. Mais les semaines passaient et rien ne transpirait de ses recherches. Une sorte de gêne finit par s'installer entre le jeune homme et ses parents, davantage perceptible chez la mère, qui désapprouvait toutes ses investigations relatives à Kerven. En octobre, Ward recommença à fréquenter assidûment les bibliothèques, mais cette fois, ce n'était plus pour des recherches historiques. Ses nouvelles matières de prédilection étaient à présent la magie, la sorcellerie, l'occultisme et la démonologie. et quand la bibliothèque de Providence s'avérait trop limitée, il n'hésitait pas à prendre le train pour Boston et à se rendre à la grande bibliothèque de Copley Square, à la bibliothèque Vodner de Harvard ou encore à la bibliothèque Zion à Brookline, où l'on peut consulter des documents presque introuvables sur tous les sujets bibliques. Il acheta beaucoup d'ouvrages et dut même ajouter de nouvelles étagères dans son bureau pour y ranger tous ses livres peu recommandables. À Noël, il fit un périple dans diverses villes avoisinantes, dont Salem, où il retourna à l'Essex Institute. En janvier 1920, il arbora un air de triomphe qu'il n'expliqua pas, mais on ne le vit plus jamais s'acharner sur le manuscrit codé d'Hutchinson. En revanche, tout en poursuivant ses recherches documentaires relatives notamment aux statistiques de l'état civil de Providence, il se mit à la chimie et installa un laboratoire dans le grenier de la maison. Les marchands de produits chimiques et appareils scientifiques interrogés plus tard dressèrent une liste étonnante et extravagante des substances et des instruments achetés par Ward. Les employés de l'hôtel de ville et des multiples bibliothèques qu'il fréquenta à cette époque purent également préciser l'objet de ses recherches fiévreuses. La tombe de Joseph Curwen, dont les générations précédentes s'étaient ingéniées à effacer toute trace. Petit à petit, la famille Ward commença à penser que Charles perdait la raison. Il avait déjà eu des crises de passions éphémères, mais cette fascination pour ses recherches étranges et ce secret ne lui ressemblait pas. Il délaissait complètement ses études, et bien qu'il n'ait échoué à aucun examen, on sentait bien que son application naguère avait cessé. Il avait à présent d'autres priorités. Quand il n'était pas dans son laboratoire à étudier de vieux traités d'alchimie, il passait son temps soit à compulser les archives nécrologiques, soit à lire des ouvrages d'occultisme seul dans son bureau, où impassible, de plus en plus ressemblant, Joseph Curwen l'observait depuis le mur de la cheminée nord. À la fin du mois de mars, Ward ajouta à ses activités une série de promenades macabres dans les cimetières désaffectés de la ville. La raison en apparut plus tard lorsque les employés de l'état civil déclarèrent qu'il avait dû faire une découverte importante. L'objet de ses recherches se déplaça brusquement de la tombe de Joseph Curwen à celle d'un certain Naphtali Field. Ce changement fut expliqué par les enquêteurs. En examinant tous les papiers de Ward, ils découvrirent un document officiel relatif à l'enterrement de Curwen qui avait échappé à la destruction systématique, où il était dit que son curieux cercueil de plomb avait été enseveli à 10 pieds au sud et 5 pieds à l'ouest de la sépulture de Naphtali Field. Le nom du cimetière avait été déchiré, ce qui compliquait singulièrement le travail. Quant à la tombe de Naphtali Field, elle était aussi introuvable que celle de Curwen. Cependant, cette tombe n'avait aucune raison d'avoir été cachée ou maquillée, et on pouvait raisonnablement espérer la trouver, même si les archives avaient disparu. D'où les promenades incessantes dans les cimetières, à l'exclusion de ceux de Saint John de la Congrégation, car d'autres documents attestaient que le seul Naphtali Field connu à Providence était baptiste.